Avoir raison avec Élisée Reclus, Marie-Lise de Saint-Salvi.
Désormais connue et reconnue pour ses talents de géographe, Élisée Reclus continue à faire parler de lui en assumant son engagement anarchiste. Ce troisième épisode « Avoir raison avec Élisée Reclus » commence à la veille des soulèvements de la commune dans laquelle il s'engage ardemment. Emprisonné et condamné à un nouvel exil, il devient une figure du mouvement anarchiste européen de cette fin de siècle aux côtés d'un autre géographe, Pierre Kropotkine. Selon eux, la pensée anarchiste se nourrit de la science géographique, tout comme la géographie se nourrit de l'anarchisme. Mais alors, pourquoi, selon Élisée Reclus, les deux sont-ils indissociables ?
Elle est hagarde, furieuse, elle court, elle hurle, le feu ! Ses cheveux flottent au vent, le feu, le feu ! Il faut que Paris brûle ! Cela se passe à la fin du mois de mai 1871, dans la commune qui est en train de mourir, cette femme, c'est Louise Michel.
Bonjour Philippe Pelletier.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite à l'Université Lyon 2 et vous avez notamment dirigé l'ouvrage collectif « Élisée Reclus, les 101 mots » paru aux Presses du Réel en 2024. Pour commencer cet épisode consacré à la pensée anarchiste d'Élisée Reclus, peut-être devrions-nous rappeler ses premiers engagements politiques. Quel militant était-il avant 1871 ?
Son engagement politique, il a commencé après le coup d'État de décembre, puisqu'avec son frère Élie, ils ont quitté la France. Hein, ils se sont réfugiés en Grande-Bretagne, en Irlande, pour Élisée, et puis ensuite aux États-Unis et en Colombie. Donc c'est des républicains anti-bonapartistes. Et quand Élisée est revenu en France 6 ans plus tard, en fait, il a retrouvé son frère Élie à Paris et tous les deux, finalement, se sont engagés dans ce qu'on pourrait appeler le républicanisme de gauche, socialisant. En particulier, Élie, l'aîné, donc, a créé un crédit du travail, un institut coopératif avec des souscripteurs, etc., dont faisait partie la fratrie Reclus, dont Élisée.
Et alors, pendant la Commune, comment est-ce qu'il prend part au soulèvement ?
Alors, de fait, comme ils sont républicains et comme ils sont farouchement dressés pour la République et pour la Commune, Élisée, qui n'aime pas spécialement les armes, va s'engager, mais il va être très rapidement arrêté, fusil à la main, dont il ne s'est probablement pas servi, en tous les cas, c'est ce qu'il a dit, et arrêté, condamné et exilé.
Pendant son emprisonnement, une manifestation de soutien international demande sa libération, c'est ça ?
C'est ça, parce qu'en fait, Élisée Reclus, à l'époque, est déjà un géographe connu, non seulement parce qu'il a écrit un certain nombre de guides de voyage, les fameux guides Joanne qui vont devenir les guides bleus, mais aussi parce qu'il a édité les 2 volumes de La Terre, donc des ouvrages de géographie, essentiellement de géographie physique, mais avec des éléments humains, toujours à l'intérieur, en 1868 et 69, en 2 volumes. Donc il est connu internationalement. Et en fait, il va y avoir une pétition engagée, notamment par les Britanniques et les Américains, parce qu'en fait, Élisée Reclus avait écrit des textes très durs contre l'esclavage et s'était retrouvé aux côtés des anti-esclavagistes américains qui l'ont soutenu en réponse, en quelque sorte. Donc, il y a eu 2 pétitions internationales. Alors, paraît-il, Darwin aurait signé. Le problème, c'est qu'on n'a jamais retrouvé la pétition, donc c'est un peu de l'histoire familiale élargie.
Mais est-ce qu'on peut dire qu'à l'époque, il avait déjà de l'influence politique ?
Alors, ça dépend ce qu'on entend par influence politique. On va dire plutôt influence au niveau de la pensée. C'est-à-dire qu'il va être du côté d'une forme de rationalité, des lumières. Il va proposer une géographie relativement positive, positiviste, mais tout de suite matinée de poésie, du sens de la beauté, de l'esthétique, qui fait que c'est une démarche assez originale, notamment qui le sort de la nomenclature géographique classique où on énumérait les montagnes, les cours d'eau, les départements, etc. Et du coup, cette approche-là qui est novatrice, elle va plaire. D'autant plus que Élisée Reclus écrit très bien. Donc il va aussi trouver un public de ce côté-là.
Et donc, il est condamné d'abord à un bannissement en Nouvelle-Calédonie. Finalement, ce sera l'exil et il arrive en Suisse où il rencontre toute une communauté d'anarchistes.
Alors, la transformation de la condamnation, elle est due notamment à cette pétition. et aussi par les pressions du milieu des géographes. Ça, faut bien le souligner, parce qu'on dit toujours que Élisée Reclus aurait été à part ou très extérieur au monde des géographes, à l'institution des géographes, ce qui n'est pas vrai. Il était membre de la Société de géographie de Paris quand même. Après, il a été couronné par la même société plus tard. Donc, il y a eu cette mobilisation de ce côté-là. Et aussi la mobilisation des leaders Hachette, qui n'est pas rien. Donc, Hachette, c'est un peu le parangon du, comment dire, de la diffusion des connaissances sur un mode républicain, partage des connaissances pour élever le peuple, etc. Donc Hachette aussi va faire pression. Et du coup, très tôt, même déjà pendant qu'il est enfermé à Brest, il va y avoir des contacts avec Templier, qui représente la maison Hachette, pour préparer le contrat de la nouvelle géographie universelle. Donc en réalité, s'il se retrouve en Suisse, certes, c'est parce qu'il y a beaucoup de communeux, comme ils se disaient eux-mêmes, et non pas communards, de communeux, d'anciens garibaldiens, des réfugiés politiques russes, etc., qui sont en confédération helvétique, qu'il va se retrouver aussi dans ce milieu-là. Et surtout, le plus important d'un point de vue politique, c'est qu'en fait, il va rencontrer à nouveau Bakounine.
Oui, qu'il avait déjà rencontré auparavant en Italie, mais là, c'est en Suisse qu'il se retrouve.
C'est ça, il l'avait rencontré en 64, déjà à Paris, puis ensuite à Florence. Il avait adhéré, Élisée, à l'Association internationale des travailleurs. Il avait coopéré avec Bakounine, notamment dans le congrès pour la liberté et la paix, qui était un congrès, en gros, de républicains bourgeois, dans lequel on trouvait Victor Hugo, Garibaldi, Edgar Quinet, etc. Bon, la paix, la liberté, le programme est assez classique. Et en fait, Bakounine et Reclus et d'autres ont créé une scission pour l'entraîner sur une voie plus socialiste. Sauf qu'à l'époque, Bakounine était déjà sur une position révolutionnaire, on va dire, insurrectionnaliste, que partageait pas forcément Élisée. Et c'est bien le traumatisme de la Commune de Paris qui va définitivement le convaincre du bien fondé des idées de Bakounine. Et c'est pour ça qu'il va le retrouver en Suisse à ce moment-là, et ensuite adhérer à la Fédération jurassienne.
Mais est-ce qu'on peut dire que les événements de la Commune ont participé à une forme de radicalisation de la pensée d'Élisée Reclus ?
Oui, bien sûr. Sauf qu'il y avait déjà des fondements, j'allais dire des fondements éthiques, des fondements de conception du monde, des fonds de la place de l'homme dans le monde et dans la société qui étaient déjà là. Sauf que là, effectivement, il va y avoir un tournant. En gros, c'est la collaboration entre le capital et le travail n'est plus possible.
Monsieur, on me communique l'article du Figaro, date inconnue, où vous parlez de moi avec une bienveillance dont je suis fort touché. Quelques erreurs de fait se sont glissées dans votre petit exposé, mais je ne les relèverai point pour ne pas vous entretenir du haïssable moi. Je tiens seulement à relever une question toute générale que vous avez tranchée d'un mot. J'aurais dû, dites-vous, en qualité de savant, ne pas m'occuper de politique. Et pourquoi, je vous prie ? Si nous prenons la politique dans son sens le plus élevé, qui est le souci du bien public, pourquoi le savant devrait-il se l'interdire ? Et d'ailleurs, où commence le savant ? À quel moment de son existence faut-il qu'il se dise « Me voici classé, spécialisons-nous sous peine de manquer au devoir ?» Combien de savants pourrais-je vous citer qui se sont occupés de politique, sans que leurs contemporains les aient blâmés ? Ou bien faut-il approuver ceux qui ont réussi en conquérant le pouvoir ou les honneurs et blâmer ceux qui sont allés en prison ou en exil ? Évidemment, ce n'est pas là votre pensée. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments de gratitude. Élisée Reclus.
France Culture, avoir raison avec Élisée Reclus. Marie-Lise de Saint-Salvi.
Nous venons d'entendre la lecture d'une lettre écrite par Élisée Reclus, dans laquelle il répond à la critique d'un rédacteur du Figaro en 1894. Philippe Pelletier, pourquoi, selon lui, être un scientifique avec un idéal politique n'est-il pas incompatible ?
C'était un excellent résumé de sa pensée, et en particulier cette phrase « À partir de quel moment on peut se considérer comme savant ?» Là, il y a une réflexion véritablement profonde et toujours d'actualité, c'est-à-dire la connaissance du monde. Elle est à tout le monde, elle est possible pour tout le monde à partir du moment où on s'en donne les moyens et que la société nous donne aussi les moyens. L'instruction publique et au-delà. Le voyage, l'apprentissage, les lectures, les découvertes, les échanges, la fréquentation d'autres peuples, le parcours du monde, enfin la marche, tout ce qu'a pratiqué Élisée qui lui a permis de développer cette position avec cette idée sous-jacente et finalement qui est commune à tout le monde, c'est le bien commun. Il va dire aussi souvent la chose publique, c'est pour ça qu'il va toujours garder cette idée républicaine, y compris quand il va parler des peuples premiers en les décrivant comme des formes de petites républiques. Cette idée finalement d'engagement de tous dans la vie de la cité, la gestion de la cité.
Et alors, comment est-ce que sa pratique de la géographie lui permet de développer aussi une pensée politique structurée ?
Alors, je pense qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau, j'allais dire, d'ancrage. Alors, j'aime pas le terme de racine et d'enracinement, parce que l'arbre, il est planté dans le sol, après, il bouge plus. Alors que l'ancre, c'est comme un navire qu'on dirige, et à un moment donné, on s'ancre quelque part. Les êtres humains, individuellement et collectivement, ils s'ancrent. Ils sont aussi très mobiles. On le voit très bien dans nos sociétés. Mais dans le passage de l'ancrage, comme dans les passages de la mobilité, en fait, c'est comment gérer la vie collective, la vie sociale à ce moment-là. Et c'est là que la géographie nous donne des outils de compréhension, parce que c'est déjà ce qui se passe. C'est-à-dire cette pluralité des situations géographiques, cette pluralité des environnements, cette pluralité des peuples, cette pluralité de co-adaptation, c'est-à-dire on transforme le milieu naturel, mais le milieu naturel aussi impacte les sociétés dans cette espèce d'interrelation. Ça, c'est la géographie, ce qui nous ramène à l'autre élément, c'est-à-dire quelque part, de mon point de vue, une critique de la philosophie de l'histoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de programmation de l'évolution. Alors, il est partisan de l'évolution dans le sens darwinien strict, c'est-à-dire de l'évolution des espèces, comme de l'évolution de la météorologie, ou l'évolution de la biogéographie, des plantes, des animaux, etc. Mais selon lui, par rapport aux sociétés humaines, il n'y a pas de téléologie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de programme prédéterminé. Et en particulier, c'est ce qui le distingue des marxistes, avec la succession des modes de production et cette conception que, finalement, avec une phase de maturation du capitalisme, finalement, le socialisme puis le communisme adviendrait. Pour Reclus et pour la plupart des anarchistes, rien n'est plus faux. Hein, s'il n'y a pas la volonté, s'il n'y a pas un programme, s'il n'y a pas un projet, cette transformation n'est pas possible. D'autant que, et ça c'est l'originalité aussi de Reclus, il y a cette balance entre le progrès et le regret. C'est-à-dire que dans l'évolution, il peut y avoir des choses positives, il peut y avoir des avancées, mais en même temps, il peut y avoir des reculs, des regrets, y compris dans le phénomène révolutionnaire. Et sur ce plan-là, en tant qu'anarchiste et en tant qu'observateur géographe, il est aussi très visionnaire. Enfin, toutes les révolutions du XXe siècle vont aussi le montrer.
Donc, lui, il soutient un mouvement de communisme anarchiste. C'est ça ?
Alors, en fait, il faut bien avoir à l'esprit que dans la première phase de l'Association internationale des travailleurs, et notamment tout le courant dit bakouninien anti-autoritaire, jusque dans les années 80, ce courant se dit collectiviste, c'est-à-dire à chacun selon ses moyens, par rapport au travail. Sur la répartition de la richesse, il n'y avait pas de choses vraiment définies. Ça, c'est ça, c'est le collectivisme. Et à un moment donné, donc, il y a eu tout un courant, et en particulier dans la fédération jurassienne à laquelle Élisée Reclus a adhéré, mais aussi Pierre Kropotkine et d'autres, au congrès de la Chaux-de-Fonds en 1880, il y a eu cette idée que il faut pas seulement penser à la production, il faut aussi penser à la consommation et le partage des richesses. Et ce partage-là, il doit se faire sur une base communiste. C'est-à-dire pas en fonction de l'effort fourni, du travail fourni, parce que la même personne pour une même tâche va prendre plus ou moins de temps, va faire ça plus ou moins bien. Donc la valeur travail, dans le sens de calcul, d'évaluer le travail, c'est une erreur. Donc d'où la logique communiste et d'où l'idée, la promotion du communisme anarchiste, donc en 1880, dizaines d'années après la Commune quand même. Hein. Donc il y a tout un cheminement et j'insisterai sur le fait que c'est la fédération jurassienne, c'est-à-dire que c'est des horlogers, travailleurs, paysans qui vont aussi promouvoir cette idée-là.
D'accord. Et donc, là, on comprend que son engagement, il se fait plutôt dans le champ des idées, il participe à des congrès. Et concrètement, est-ce qu'il a une action politique ?
Alors, l'action politique, il va assister à quelques réunions, quelques congrès. Ça va être surtout un homme de soutien, et notamment de soutien financier, parce que son contrat avec Hachette est très bon. Donc, il en fait profiter la cause. En particulier en finançant le révolté qui va devenir la révolte, etc. Donc un certain nombre de journaux et publications anarchistes. Donc c'est essentiellement ça, son action, on va dire militante entre guillemets, parce que il y a aussi cette idée que donc 1880, 1890, 1900, on a cette évolution du mouvement anarchiste en direction du syndicalisme et du syndicalisme révolutionnaire, de la revendication de la grève générale, avec des congrès ouvriers, des congrès socialistes, révolutionnaires, etc., dans lequel s'engagent des anarchistes. Mais lui, Reclus, ne se considère pas comme un ouvrier. Donc il va pas parler à la place des ouvriers. Il va laisser faire ceux qui sont vraiment sur le terrain ouvrier, syndical.
D'accord. Et dans ses ouvrages de géographie, parce que vous, justement, vous citez Hachette, c'est une période où il écrit énormément d'ouvrages. Est-ce que dans ses livres de géographie, il instille aussi des théories politiques, un idéal de société ?
Moi, je pense que c'est un état d'esprit. C'est-à-dire, c'est la pensée libre face au monde. L'idée que l'individu, donc le lecteur ou la lectrice responsable, fait face à la présentation de la connaissance et par conséquent bâtit sa pensée et bâtit aussi les perspectives qu'il peut imaginer. Donc, et Reclus donne un peu tous les éléments, plus ou moins contraires d'ailleurs, sur l'idée qu'on peut se faire d'une société qui soit juste et égale. Donc, dans ses ouvrages de géographie, il n'y a pas de programme politique au sens strict. Il y a, on va dire, une maturation peut-être d'une théorie politique dans l'introduction de L'Homme et la Terre, donc 1905, où là, il va dégager trois lois, il met des guillemets, à la géographie sociale, c'est-à-dire, un, la lutte des classes, deux, la recherche de l'équilibre, et trois, la responsabilité de l'individu. Donc voilà, c'est un peu...
On peut développer ce qu'il entend par l'équilibre, par exemple ?
La recherche de l'équilibre, c'est une idée qui remonte peut-être à Proudhon, même si Reclus n'aime pas trop Proudhon. Cette idée que la société, le monde en général, y compris le monde naturel, est fait de tensions, de rivalités, d'oppositions, mais qu'il y a un moment donné où il y a toujours un rétablissement d'une forme d'équilibre. On peut dire de la même chose de la famille ou du couple, ou rupture, ou réaccord, compromis. Donc il y a cette idée-là, c'est ça la recherche de l'équilibre. Et lui, il observe à la fois d'un point de vue géographique, c'est-à-dire que quand il analyse la dégradation des milieux, il voit aussi la restauration des milieux, soit par eux-mêmes, soit par l'action intelligente de l'être humain. Et pareil pour les sociétés, d'une certaine façon.
Alors, il y a aussi la lutte des classes, ça on comprend à peu près ce que c'est. Et la troisième loi, c'est la décision souveraine de l'individu.
Alors ça, on peut dire que c'est l'aspect plus, pour un contemporain, le plus évident de l'anarchisme, mais c'est fondamental. C'est-à-dire que la pensée libre, elle passe par l'autonomie de l'individu, d'assumer sa liberté, mais aussi ses responsabilités par rapport à lui-même, puis par rapport à son entourage, par rapport à la société. Et en fait, sans l'action libre et souveraine de l'individu, rien n'est possible. Et là, on voit aussi d'une façon assez novatrice, finalement, une critique de la dystopie marxiste-léniniste, par exemple, ou des États totalitaires qui se revendiquent du socialisme, qui en fait, par l'autorité, par l'État, par les pouvoirs, par l'oppression, par la répression, finalement, même si les idées apparaissent généreuses, l'enfer est pavé de bonnes intentions, parce que, précisément, la liberté de l'individu, elle est brimée. L'individu est supposé intrinsèquement presque perturbant, etc. Il faut le contrôler. Enfin bon, c'est la logique autoritaire. Mm-hmm. Donc de fait, en mettant l'accent sur la décision souveraine de l'individu, c'est carrément l'antidote.
Mm-hmm. Et est-ce qu'en étudiant la nature, en l'observant, est-ce qu'il en tire des modèles pour une société idéale ?
Alors on ne peut pas dire modèle, on ne peut pas dire idéal, parce que justement l'idéal suppose une perfection qui est de l'ordre du religieux et Reclus a rompu radicalement avec la religion, avec l'idée de Dieu, donc l'idée d'une incarnation de la perfection. Mais par contre, lui et Kropotkin ou un autre géographe comme Léon Metchnikov vont observer dans la nature les phénomènes d'entraide. C'est-à-dire que les animaux vont aussi se manger entre eux, s'entre-déchirer, mais ils vont aussi coopérer. Donc il y a tout un tas d'observations, notamment dans L'Homme et la Terre, bien sûr chez Kropotkin, c'est la théorie de l'entraide. C'est la théorie de l'entraide. Et d'une certaine façon, à partir du moment où on considère que l'être humain vient de la nature... c'est même la nature prenant conscience d'elle-même, donc c'est déjà un dépassement, moi j'appelle ça l'hyper-nature. Il y a quand même un rattachement à ce milieu naturel, donc du monde animal, et donc il y a les rivalités, mais il y a aussi l'entraide dans le milieu humain. Et surtout, il y a aussi des passages dans L'Homme et la Terre qui sont assez belles, où il explique que c'est l'idée du mimétisme, notamment qu'on va trouver chez Tarde, un sociologue, Gabriel Tarde, c'est l'idée que finalement les êtres humains se sont aussi inspirés des animaux pour bâtir, pour faire des choses, voilà.
Vous avez cité Pierre Kropotkin, c'est important et je l'ai d'ailleurs introduit en début de cette émission. Il était aussi géographe et ils étaient tous les deux proches. Est-ce qu'ils ont travaillé ensemble? Comment est-ce qu'ils se sont influencés mutuellement?
Alors, ils ont été très proches, mais ça n'a pas été immédiat. Kropotkin s'est retrouvé lui aussi réfugié en Confédération helvétique. Il était, lui, à Saint-Imier et à La Chaux-de-Fonds. Reclus était plutôt à Lausanne et à Genève, et donc il y avait aussi des groupes un peu différents qui évoluaient différemment, en particulier le milieu Genève et de Lausanne était plus proche des anciens communeux, donc des Français, alors que dans la Fédération jurassienne c'était un peu autre chose. Donc ils se sont un peu flairés, il y a eu des conceptions un petit peu différentes, puis finalement ils ont mis les choses au point, d'où l'adoption du communisme anarchiste. Et à partir de ce moment-là, donc on va dire 1878, ils ont vraiment travaillé ensemble. Et surtout, Kropotkin, comme Metchnikov d'ailleurs, comme tous les réfugiés russes, comme Joukovsky, etc., qui étaient présents en Suisse, bah ça l'a beaucoup aidé à faire les deux volumes sur la Russie et l'extrême-orient russe.
Oui, parce que pour écrire la nouvelle géographie universelle, il a eu recours à des agents un peu partout dans le monde et c'est un bon réseau de collaborateurs.
Oui, et y compris des collaborateurs qui pouvaient être des missionnaires, des diplomates, etc. Oui. Et il jouait sur le côté « la science est légitime, je suis un savant
oui. ». Oui, et qui était aussi lié à son réseau anarchiste, donc ce qui a servi aussi dans son travail de géographe. On arrive à la fin du siècle en France, qui est agitée par les attentats anarchistes. Comment est-ce que Élisée Reclus prend position? Quel est son rapport à la violence en politique?
Alors, je pense qu'il faut distinguer la violence et la question des attentats. Parce que les attentats, en gros, c'est le régicide, c'est le tyrannicide. Il s'agit de supprimer un tyran ou le responsable d'un massacre. Je rappelle que l'armée tirait sur la foule, le massacre de Fourmies, etc. Ou les massacres qu'il y a eu en Italie, en Espagne. Donc, l'idée, c'était, pour certains anarchistes, c'était de punir le tyran, puisque la justice ne faisait pas son travail. Donc, c'est pas la même chose que la violence, même si, de fait, le régicide est un acte violent. Mais c'est pas... par exemple, la violence révolutionnaire, c'est autre chose, quelque part. Donc, du coup, Reclus va davantage se fonder sur l'acte individuel. Et lui, il va se dire, mais qui suis-je pour juger? Surtout que la plupart des régicides ont été faits par des travailleurs pauvres, Casiréo ou même Ravachol. Enfin, Ravachol, il a une vie de misère. Donc, lui, il va pas se mettre à leur place pour les juger. Par contre, dans sa correspondance privée et après en public, il va estimer que ce type d'action est nuisible à la cause. C'est-à-dire qu'en fait, on renverse pas une société avec des marmites.
D'accord. Et je reviens aussi avec un autre de ses engagements, à savoir... Alors, je ne sais pas si c'est déjà anachronique de parler de féminisme. En tout cas, il est entouré de ses sœurs, de ses belles-sœurs. Il a fait la commune avec Louise Michel. Et je voulais vous entendre sur la question de l'égalité des hommes et des femmes. Est-ce que c'est quelque chose qu'Élisée Reclus a aussi pensé?
À tout de suite, très tôt, avec son frère Élie et donc sa belle-sœur Noémie, la compagne d'Élie, et aussi avec ses propres épouses. Ça a été un souci constant chez Reclus et d'une certaine façon dans le clan Reclus. Il était très proche de sa sœur Louise Duménil Reclus. J'en parle un petit peu dans mon livre sur les grandes figures de l'anarchisme. J'ai préféré parler de Louise plutôt que de parler d'Élisée, parce qu'effectivement, c'était un peu la femme de l'ombre. Ses frères lui disaient, mais signe de ton nom, les éditeurs voulaient pas. Ça se faisait pas pour les femmes, hein. D'où Georges Sand, André Léo, etc. Donc c'était un peu la femme de l'ombre, mais elle était sur les mêmes positions politiques que ses deux frères, et surtout d'Élisée Reclus. Et à la fin de leur vie mutuelle, ils étaient très très proches.
Bruxelles, 4 décembre 1901. Chers camarades, nous avons en général l'habitude d'exagérer aussi bien notre force que notre faiblesse. Ainsi, pendant les époques révolutionnaires, il nous semble que le moindre de nos actes doivent avoir des conséquences incalculables. Et en revanche, dans certains moments de marasme, toute notre vie, bien que consacrée entièrement au travail, nous paraît inféconde et inutile. Et nous nous croyons même emportés par un vent de réaction. Que faut-il donc faire pour nous maintenir en état de vigueur intellectuelle, d'activité morale et de foi dans le bon combat? Ni patron, ni chef, ni apôtre au langage considéré comme parole d'évangile. Fuyez les idoles et ne cherchez que la seule vérité dans les discours de l'ami le plus cher, du plus savant professeur. Si, l'ayant entendu, vous conservez quelques doutes, descendez dans votre conscience et recommencez l'examen pour juger en dernier ressort. Donc, repoussez toute autorité, mais s'astreindre au respect profond d'une conviction sincère. Vivre sa propre vie, mais reconnaître à chacun l'entière liberté de vivre la sienne. Si vous vous lancez dans la mêlée pour vous sacrifier en défendant les humiliés et les offensés, c'est bien, compagnon, affrontez noblement la mort. Si vous préférez le lent et patient labeur en vue d'un meilleur avenir, c'est mieux encore. Faites-en l'objectif de chacun des instants d'une vie généreuse. Mais si vous choisissez de rester pauvre parmi les pauvres, en complète solidarité avec ceux qui souffrent, que votre existence s'irradie en lumière bienfaisante, en parfait exemple, en fécond enseignement. Salut camarade, Élisée Reclus.
On vient d'entendre une lettre d'Élisée Reclus qui date de 1901 et qui s'adresse à la rédaction de la Huelga Générale à Barcelone. Ce dernier extrait pour une dernière question. Quelle influence Élisée Reclus a-t-il en Europe ?
À cette époque-là, elle est assez considérable parce que, en fait, ces écrits de géographes, notamment Histoire d'un ruisseau, Histoire d'une montagne, qui sont des ouvrages de vulgarisation intelligents, accessibles, populaires, mais aussi ces écrits anarchistes qu'a Mon frère paysan, Évolution, Révolution et l'idéal anarchique, pardon, etc. C'est très lu. C'est beaucoup lu. Et en particulier dans les milieux anarchistes. Moi, je connais des compagnons espagnols très, très âgés qui ont appris à lire sur Élisée Reclus. Donc, en fait, il était lu en Espagne, en Italie, en Belgique, au Royaume-Uni, en Suisse, en Russie, etc.
Merci.
Et traduit aussi.
Merci Philippe Pelletier. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à l'Université Lyon 2 et vous avez notamment dirigé l'ouvrage collectif Élisée Reclus, les 100 hameaux paru aux presses du Réel en 2024. Je cite également Noir et Vert, Anarchie et Écologie, Accords et Dissonances paru cette année dans une nouvelle édition au Cavalier Bleu. Merci à Nicolas Berger pour ses lectures et je remercie Daphné Leblon à la réalisation. À la technique, c'était Françoise Saint-Jour et on se quitte sur la chanson Élisée Reclus du groupe Justine. Dans le prochain épisode, nous retrouvons Élisée Reclus en Belgique pendant les dernières années de sa vie qu'il consacre à la rédaction de sa grande œuvre finale, L'Homme et la Terre. Plus de fin d'histoire.